RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie, avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 9,5-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir à toutes et à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal suivi de commentaires. Vous pouvez également écouter l'histoire d'aujourd'hui et mon Indonésie, l'arbre suivante, magazine culturel et l'Indonésie en couleur. Avant de terminer cette émission, comme d'habitude, nous allons également présenter des chansons indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutons maintenant le journal suivi de commentaires.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Serviteurs, bonsoir, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. L'Indonésie joue un rôle constructif dans la paix sur la péninsule coréenne. Le chef de l'Agence nationale indonésienne pour le cybercontrôle et le code, ou BWSN, a dit que la cybersécurité était une menace commune. L'approche du concept de moyen chemin peut être appliquée dans la société. L'ambassade indonésienne à Lima a organisé la socialisation électorale de 2019. Le tourisme peut renforcer leur réserve de sang. Et enfin, l'Indonésie offre à la Jordanie une coopération dans la production de vaccins. Voici le journal complet. L'Indonésie, comme le pays ami traditionnel de la Corée du Sud et de la Corée du Nord jusqu'à présent, a joué un rôle constructif dans la construction de la paix dans la péninsule coréenne. Il a été déclaré par l'ambassadeur sud-coréen à l'Indonésie, Kim Chang-beom, à la voix d'Indonésie dans le cadre de la commémoration de la journée de l'indépendance coréenne le 15 août à l'ambassade de Corée du Sud, Jakarta, récemment. Selon l'ambassadeur Kim Chang-beom, la péninsule coréenne se trouve actuellement au carrefour crucial pour un changement et l'Indonésie a le rôle comme un pont reliant les deux Corées dans un forum multilatéral. Tous les mouvements positifs qui ont eu lieu peuvent renforcer la confiance des États-Unis, la Corée du Sud et la Corée du Nord. Mais la résolution des problèmes dans la péninsule coréenne a encore besoin du rôle de la communauté internationale, y compris l'Indonésie.
So this sequence of very positive movements are now building up trust and confidence.
Tous les mouvements positifs peuvent créer la confiance entre les États-Unis, la Corée du Nord et la Corée du Sud. Mais il est encore long parce que l'établissement d'une paix permanente dans la péninsule coréenne est comme courir en marathon, pas un sprint de 100 mètres. Nous ne pouvons pas le résoudre avec un seul soutien fort. Nous avons besoin de patience, nous avons besoin d'une plus grande attention et nous avons besoin d'un plus grand soutien de la communauté internationale, y compris de l'Indonésie. L'Indonésie a joué un rôle constructif dans la création de la paix et de la stabilité dans la péninsule coréenne. Selon Kim Chang-beom, à travers les Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang en Corée du Sud, février dernier, les deux Corées ont été en mesure de résoudre des difficultés et étaient d'accord pour se joindre au défilé de l'athlète lors de l'ouverture des Jeux olympiques et de former une équipe de hockey sur glace féminin. pour les Asiatiques 2018 à Jakarta et Palembang, Sumatra du Sud, qui aura lieu de l'août au septembre. La Corée du Sud et la Corée du Nord vont porter le drapeau à la parade d'ouverture des athlètes. En outre, les deux Corées ont convenu de former une équipe commune pour plusieurs sports, notamment le basketball. Le chef de l'Agence nationale indonésienne pour le cybercontrôle et le code BWSN, Joko Setiadi, a déclaré que le renforcement de la stratégie de cybersécurité est important pour maintenir la souveraineté des pays dans le monde. Cela a été déclaré par Joko Setiadi après la signature du mémorandum d'accord entre l'Indonésie et le Royaume-Uni, qui a convenu de renforcer la coopération en matière de cybersécurité entre les deux pays. Le protocole d'accord a été signé par le chef de BWSN, Joko Setiadi, et le ministre d'État britannique pour l'Asie et le Pacifique et pour le Bureau des Affaires étrangères et du Commonwealth, Mark Field, au ministère indonésien des Affaires étrangères de Jakarta, mardi le 14 août 2018. Après avoir signé le mémorandum d'accord, Joko Setiadi a déclaré que ces dernières années, les progrès technologiques contribuaient indéniablement aux cybermenaces susceptibles de compromettre la sécurité de l'État, comme le piratage d'informations confidentielles et le piratage. Jusqu'à présent, outre le Royaume-Uni, selon Joko, l'Indonésie a également établi une coopération en matière de cybersécurité avec l'Australie, les Pays-Bas et plusieurs autres pays.
Nah, jadi begini, kalau kita kan namanya cyber ini kan berlaku bagi bangsa pada seluruh dunia. Bagi itu ancaman.
Donc, si on y regarde, on l'appelle cyber, cela s'applique au pays du monde entier, qu'il s'agisse des menaces, de protection ou de technologie. Nous devons vraiment adopter ce qui est le meilleur. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous protéger des menaces externes? Cette déclaration des amis d'autres pays est la même. Ainsi, non seulement l'Indonésie a des cyberattaques, mais tous les pays du monde ont les mêmes intérêts. Ils continuent d'être vigoureux, non seulement au Royaume-Uni, hier également avec les Pays-Bas, avec l'Australie. Nous, tous les pays voisins, rencontrons pour faire face aux dangers de la menace de cyberattaques. Joko a ajouté que le renforcement de la coopération en matière de cybersécurité est également important pour prêter attention au gouvernement avant la prochaine élection générale de 2019 pour anticiper les fraudes. Selon lui, il y a quelque temps, un certain nombre de pays ayant organisé des élections ont renforcé leur sécurité informatique pour anticiper les fraudes lors des élections. Par conséquent, sa partie continue à coopérer pour faire face aux cybermenaces au cours des élections de 2019. De 131 ulémas, experts et militants de divers pays et organisations internationales se sont réunis pour participer au 7e Forum mondial de la paix sur le thème « La voie du milieu pour les civilisations du monde ». Le forum a été organisé par le bureau de l'envoyé spécial du président pour le dialogue sur la coopération interconfessionnelle et civilisationnelle au KPDKAAP. Le Centre pour le dialogue et la coopération entre les civilisations CDWC et l'Organisation malaise d'éducation sociale Cheng Ho Multicultural Trust of Malaysia, inauguré officiellement par la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, à Jakarta, mardi le 14 août 2018. Après la cérémonie d'ouverture du forum, la ministre Retno a déclaré que l'approche intermédiaire devait être mise en œuvre dans la communauté et être traduite dans des programmes de nature mondiale, comme l'économie liée directement au bien-être de la société. Comment cette approche de moyen chemin peut-elle être appliquée? Premièrement, l'approche intermédiaire peut être mise en œuvre dans une société ouverte. Ensuite, l'approche intermédiaire doit également être traduite en programmes mondiaux. Je vous ai donc parlé des problèmes économiques. Parce que, une fois encore, le bien-être de la communauté, le bien-être de tous suivra l'intégration des approches du milieu. Et troisièmement, bien sûr, il doit y avoir une justice. En outre, La ministre Retno Marsoudi a déclaré qu'avant de lutter pour la paix par la voie du milieu n'est pas facile. Un engagement et une détermination élevées sont nécessaires. Elle a déclaré que l'approche conceptuelle à moyen terme ne devait pas seulement arrêter une idée, mais il doit être mis en œuvre dans la vie des gens. Retno a continué, il était obligatoire d'impliquer le rôle de la base, en particulier dans les institutions familiales et des femmes. Selon elle, ce forum est très bon, il ouvre toutes les figures, pas seulement les figures religieuses, mais aussi les activistes pour parler du problème de la voix du milieu ou de l'unité dans la langue de l'islam. Les citoyens indonésiens au Pérou assistent avec l'enthousiasme à la socialisation des élections simultanées de 2019. Cela a été transmis par l'ambassade de la République d'Indonésie à Lima dans une déclaration écrite reçue par Antara mercredi. L'ambassade de la République d'Indonésie à Lima a organisé la socialisation électorale simultanée de 2019 dans le bâtiment de l'ambassade indonésienne à Lima. L'ambassade indonésienne à Lima a affirmé au peuple indonésien au Pérou l'importance de la participation de tous les citoyens indonésiens à l'étranger pour utiliser leur vote de l'élection générale le 13 avril 2019. L'ambassade indonésienne à Lima espère qu'avec cette socialisation, les Indonésiens au Pérou participent et supervisent le processus électoral conformément aux principes directs, généraux, libres et secrets. Le personnel spécialisé du ministère du Tourisme, des Affaires, du Marketing et de la Coopération Touristique, Igde Pitana, a déclaré que le tourisme nécessitait du temps à moyen et à long terme pour donner la contribution significative aux efforts visant à renforcer la réserve de devises du pays. Antara a rapporté, Igde Pitana a expliqué à Jakarta récemment que l'impact de la promotion du tourisme aujourd'hui ne pouvait pas être ressenti directement, mais à long terme jusqu'à 6 mois. De cette façon, le secteur du tourisme ne peut pas être trop souhaité de contribuer dans un court de temps. Mais il espère, en continuant à développer le secteur du tourisme, tant en termes de développement des destinations et de promotion du marché, le secteur du tourisme à l'avenir sera la base du renforcement des réserves de sens du pays. Le gouvernement indonésien offre une coopération dans le domaine de production de vaccins au gouvernement jordanien. Dans une déclaration écrite de l'ambassade d'Indonésie à Amman, citée par Antara mercredi, l'offre de coopération a été transmise par l'ambassadeur d'Indonésie en Jordanie, Andi Rahmianto, au ministre de la Santé jordanien, Asayeh Mahmoud Al-Sayyab, lors d'une visite au bureau du ministre de la Santé de la Jordanie à Amman. La visite de courtoisie de l'ambassadeur d'Indonésie a pour but de discuter de l'élargissement de la coopération sanitaire entre l'Indonésie et la Jordanie, y compris une discussion sur l'élaboration d'un protocole d'entente de la coopération sanitaire entre les deux pays qui sont encore en discussion. L'ambassadeur Andi Rahmianto a dit que contre-projet du gouvernement jordanien sur le protocole d'accord sur la coopération en matière de santé entre l'Indonésie et la Jordanie était toujours en discussion au ministère de la Santé indonésien. Il souhaite que la réponse au contre-projet du mémorandum d'accord puisse être livrée rapidement, de sorte que le protocole d'accord peut être convenu immédiatement. Serviteur, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Les commentaires, le point de vue de RRI World Service, la Voix de l'Indonésie sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Chers auditeurs, voici donc le commentaire et pour le titre « Surmonter le déficit de la balance commerciale ». Selon l'Agence centrale des statistiques ou BPS, la balance commerciale d'Indonésie en juillet 2018 a enregistré un déficit à 2,03 milliards de dollars américains, le plus gros déficit des 5 dernières années. Ce chiffre représente la différence entre la valeur des importations de 18,27 milliards de dollars américains et la valeur des exportations de 16,24 milliards de dollars américains. Le déficit commercial total de janvier à juillet 2008 a atteint à 3,09 milliards de dollars américains. Lors d'une conférence de presse avec le ministre de l'économie Darmin Nasution et le gouverneur de la Banque d'Indonésie, Perry Warjio, après une réunion restreinte du cabinet du président à Jakarta mardi, la ministre des Finances Sri Mulyani Indrawati a affirmé que le gouvernement prendrait des mesures drastiques et décisives dans le contrôle des importations liées aux conditions de balance de paiement de plus en plus malheureuses. La ministre Sri Mulyani a déclaré que le déficit du compte courant d'Indonésie au premier trimestre 2008 n'était que d'environ 2%. Mais au deuxième trimestre de 2008, il a atteint 3% du produit intérieur brut ou PIB. Les importations de biens de consommation, de matières premières et de biens d'équipement ont fortement augmenté au deuxième trimestre de 2008. Le directeur de l'Agence centrale de statistiques, M. Suharyanto, a déclaré mercredi à Jakarta que l'un des efforts du gouvernement pour réduire le déficit de la balance commerciale était de réduire les importations de produits pouvant être produits sur le marché intérieur. Il y aura 500 produits à réévaluer, en particulier les produits à forte valeur ajoutée par rapport aux produits importés, tels que les industries de l'huile de palme, de papier, de caoutchouc et de plastique. Par ailleurs, un économiste de l'Institut pour le développement de l'économie et des finances, INDEF, Bima Yudhistira, a fait remarquer que le déficit de la balance commerciale d'Indonésie pourrait s'épuiser à la fin de 2018 si le gouvernement cessait sérieusement des turbines en acier et des centrales électriques. Le gouvernement doit également accélérer la mise en œuvre de l'utilisation de biodiesel à 20% ou B20 dans la teneur en carburant afin de réduire les importations de pétrole et de gaz. De même, le ministre coordinateur des Affaires économiques, Darmin Nasution, lors d'un déjeuner d'affaires sur le thème « L'alerte de l'économie d'Indonésie dans l'année politique » jeudi à Jakarta, a déclaré que l'élargissement de l'utilisation de 20% de biodiesel peut presser le déficit de la balance commerciale, car avec cette politique, les importations de pétrole seront réduites. Le déficit pétrolier et gazier au cours du premier semestre 2018 a atteint 5,4 milliards de dollars américains. Cette situation n'a pas encore pu baisser immédiatement car le gouvernement continue de construire plusieurs grands projets d'infrastructure. En outre, la tendance à la hausse des prix de carburant aggrave le déficit de l'Indonésie. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y a aucune opportunité, parce que l'Indonésie a un produit à encourager pour accroître ses exportations. Nous devons être optimistes en diversifiant davantage de produits locaux de qualité pouvant être exportés à l'étranger et en réduisant les activités d'importation de l'Indonésie, de sorte que la valeur des exportations soit bien supérieure à la valeur des importations et que le déficit. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Les faits historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Chers amis, écoutez maintenant l'histoire d'aujourd'hui. Le 16 août 1945, l'événement de Rengas Dengklok, Soekarno et Hatta ont été enlevés par quelques jeunes, entre autres Soekarni, Wikana et Khairul Saleh. Cet incident a eu lieu le 16 août 1945. Soekarno et Hatta ont été pris de Menteng à Rengas Dengklok, Karawang, Java West. Ils ont exhorté Soekarno et Hatta pour accélérer la proclamation de l'indépendance de la République d'Indonésie. Le lendemain matin, précisément le 17 août 1945, le texte de proclamation tapé par Sayuti Melik a été annoncé à Jalan Pegangsaan Oriental numéro 56, Jakarta. Le 16 août 1960, l'indépendance de Chypre. Chypre est une île de 9251 km² dans la mer Méditerranée. Au XVIe siècle, cette île a été gouvernée par l'Empire ottoman et en 1925, la Grande-Bretagne fonde officiellement cette île comme des colonies. Depuis lors, il y a eu une guerre civile entre les habitants de Chypre, l'ethnie de Turquie, avec la population d'origine grecque qui voulait unir Chypre avec la Grèce. En 1959, la Grande-Bretagne a tenu une conférence de Zurich entre la Turquie et la Grèce pour discuter de l'octroi de l'indépendance formelle à Chypre, avant de réaliser en 1960, avec les dispositions des deux parties, à savoir la Turquie et la Grèce, devient un pays qui garantit l'indépendance de Chypre. Et enfin, le 16 août 1960, Chypre était officiellement indépendante avec un gouvernement républicain. Le 16 août 1976, le séisme aux Philippines. Le séisme de magnitude 7,9 a frappé les côtes de l'île de Mindanao au sud des Philippines vendredi, a déclaré le centre d'alerte de tsunami dans le Pacifique. Le séisme qui a secoué les Philippines a été mesuré à une profondeur de 10 km à 68 km au sud de la ville de General Santos, selon le centre d'alerte de tsunami dans le Pacifique. 5000 personnes sont mortes, 2200 disparues et 9500 blessées et plus de 90 000 personnes étaient sans abri. Chers amis, c'était l'histoire aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Indonesiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique Mon Indonésie, intitulée Préserver la côte et la mer par l'action de nettoyage des côtes. La question de la pollution marine et côtière a provoqué des problèmes complexes et menace la diversité de la vie marine et de la vie socio-économique de la société. Pour résoudre ces problèmes, depuis 2015, le ministère de l'Environnement et des Forêts mène régulièrement des activités de nettoyage des côtes dans plusieurs localités indonésiennes. Le directeur général de lutte contre la pollution et de la dégradation de l'environnement du ministère de l'Environnement et des Forêts, Karliansah Langdi, a dirigé les activités de CCU sur la place de Tanjung Kelayang, la régence de Belitung, la province des îles de Bangka Belitung, qui a également eu lieu simultanément dans trois sites touristiques sur l'île de Belitung, tels que la place de Tanjung Kelayang, la place de Tanjung Tinggi et aussi la place de Nyur Melambai. Selon Karliansah, la lutte contre la pollution et les dommages côtiers et marins causés par les déchets marins sur l'île de Belitung est très importante, parce que Belitung est devenue une destination touristique étant soutenue par ses belles plages. En outre, le secteur du tourisme a grandement contribué à la croissance économique de l'île de Belitung. À cette fin, Karliansah demande à toutes les parties, comme l'élément du gouvernement, de la communauté et le monde des affaires, de participer à maintenir conjointement l'île de Belitung contre l'impact de la pollution et des dommages environnementaux, notamment les déchets marins. L'activité de nettoyage des côtes et le mouvement de nettoyage des places et de la mer qui implique la communauté et le monde des affaires, qui est aussi de la durabilité côtière et marine, et offre à la communauté et à toutes les parties prenantes des possibilités de participer aux campagnes de lutte contre la pollution côtière et marine. Les sources de pollution côtière et marine proviennent non seulement du continent, mais aussi proviennent des océans. Les déchets plastiques dans l'océan, comme par exemple, proviennent d'environ 20% des secteurs de la navigation et de la pêche, mais 80% viennent du continent. Les déchets plastiques dans l'océan qui proviennent de la terre provenant du débit de la rivière qui se jette dans la mer et les zones côtières, où les zones côtières de l'Indonésie couvrent 50% de la superficie des terres avec un taux de population de 70% dans la région. Concernant la lutte contre la pollution et les dommages aux zones côtières et marines, le gouvernement indonésien dans divers forums internationaux ont exprimé leur engagement à réduire les déchets plastiques dans la mer jusqu'à 90% en 2025. Les actions pour atteindre ces engagements seront faites à travers quatre stratégies. D'abord, l'augmentation de la conscience des parties prenantes. Deuxième, la gestion des déchets plastiques terrestres. Troisième, la gestion des déchets plastiques sur la côte et la mer. Quatrième, le mécanisme de financement, le renforcement des institutions, l'application de la loi et la recherche et le développement. Chers amis, c'était la rubrique Mon Indonésie de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Jangan pernah berputus asa, jadi yang terbaik. Show the world.
Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, est le service international de RRI. Nous diffusons tous les jours à travers les ondes courtes sur 925 kHz par le site www.voinews.id/french ou par l'application RRI Play. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, informing, connecting, dignifying.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonesia. Chers amis, nous continuons notre émission avec le Magazine Culturel, introduisant la tradition apitan. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésie, la voix de l'Indonésie. Le 6 août dernier, les habitants du village Guci, sous-district Godong, région Grobogan, Java Central, se sont rassemblés sur la route du village pour perpétuer une tradition d'omon ou apitan. Dans cette tradition héréditaire, des centaines de résidents ont consommé ensemble 500 poulets cuits entiers avec des herbes ou ingkung. La tradition apitan en mangeant du riz ingkung a eu lieu il y a des centaines d'années et est une manifestation de gratitude envers Dieu Tout-Puissant. La tradition apitan se déroule entre deux fêtes islamiques, à savoir Eid al-Fitri et Eid al-Adha. Par conséquent, la tradition pensée s'appelle apitan ou au mois de Zulkaïdah, ou le 11e mois du calendrier islamique, et les Javanais l'appellent généralement Apit. Apitan ou l'aumon terrestre est un salut en guise de gratitude pour des produits agricoles abondants. Lorsque la tradition aura lieu, les hommes du village Guci arrivent à l'endroit de la tradition apitan depuis midi. Ils ont apporté des paniers remplis de riz ingkung enveloppés dans des feuilles de bananier cuites à la maison. Ensuite, 500 riz ingkung ont été collectés et placés sur la route du village. Les villageois se rassemblent alors et s'assoient sur des nattes pour tenir des prières. Après la prière, les gens ont immédiatement mangé le plat de riz ingkung. Ingkung est un poulet qui est cuit en tac et donné des épices d'opor, noix de coco et feuilles de laurier. Le plat ingkung est destiné à purifier l'hôte et les invités présents à la célébration. Le nom ingkung vient du javanais. Le mot ing ou ingsung signifie moi et le mot manekung signifie prier solennellement. Ingkung dans la tradition apitan au village Guci est serré ensemble avec du riz, oseng tempeh, des nouilles frites, du tempeh et du tofu enveloppés dans des feuilles de bananier. Selon la communauté locale, ingkung compare un bébé qui n'est pas encore né, de sorte qu'il n'a pas eu d'erreur ou qu'il est toujours pur. En outre, Inkung a également été interprété comme une attitude de soumission au pouvoir du Tout-Puissant. Habituellement, après la tradition apitan, les habitants du village Kuchi détiennent les arts barongan et ketoprak. Ketoprak est un art dramatique traditionnel de Surakarta et se développant à Yogyakarta. Alors que barongan est un art qui affiche le caractère de barong, le roi des esprits, et symbolise la bonté. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Rendez-vous demain avec l'autre sujet intéressant. À demain!
Warna-warni, l'Indonésie en couleur, présent les informations sur les femmes, les jeunes et les réussites de l'Indonésie.
Chers amis, nous continuons notre émission avec l'Indonésie en couleur, informant sur Festival Jakarta Great Sale 2018. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésie, la voix de l'Indonésie. Le 12 août 2018, la plus grande fête du shopping en Indonésie, le Festival Jakarta Great Sale, soit FJGS 2018, a été officiellement inauguré à One Bell Park Mall à Jakarta. Ayant pour thème l'esprit de Jakarta, l'événement aura lieu du 12 août au 4 septembre 2018. Selon Ellen Hidayat, présidente du Festival Jakarta Great Sale 2018, le Festival de la Vente de Jakarta 2018 a eu lieu en août 2018 avec le soutien du gouvernement DKI Jakarta. Avec le lancement du festival, il est prévu que Jakarta devienne l'hôte qui offre le meilleur service et offre une variété de produits de qualité à des prix abordables. Cet événement est également le bon moment pour présenter aux pays asiatiques que Jakarta est un paradis et une destination de shopping. Cette année, le festival Jakarta Great Sale a été suivi par 82 centres commerciaux à Jakarta avec plus de 2000 magasins offrant des réductions allant jusqu'à 70%. Divers événements intéressants auront également lieu lors du festival, notamment le programme Midnight Sale qui se déroulera chaque dimanche en alternance dans 16 centres commerciaux de Jakarta. Il y aura également un tirage au sort Shopper Card dans 40 centres commerciaux avec un bon d'achat d'une valeur totale de 140 millions de rupiah. Le comité organisateur du festival Jakarta Great Sale 2018 collabore également avec PME formée par Dekra Nasda de Jakarta qui a son siège à Jakarta et qui vendra divers objets artisanaux indonésiens et de Jakarta dans 15 centres commerciaux. En plus du centre commercial, 8 hôtels participent aux forfaits et aux offres spéciales tout au long de la période du festival. Lors de cet événement, le Festival Jakarta Great Sale 2018 a également organisé une action auprès de 41 centres commerciaux à Jakarta. Le Festival Jakarta Great Sale se tient généralement dans le cadre de l'anniversaire de Jakarta. Le grand événement a commencé à être présenté au public dans les années 1980, précisément en 1982. Le gouvernement provincial de Jakarta à cette époque a lancé un événement commercial appelé Festival of Shops. L'événement a par la suite été rebaptisé Discount Party dans les années 1990 et a été remplacé par Jakarta Great Sale jusqu'à ce que le nom soit remplacé par l'actuel Festival Jakarta Great Sale. Cette année, Jakarta Festival Great Sale a lieu en août pour coïncider avec les Jeux Asiatiques de 2018. Cette année, les ventes au détail à Festival Jakarta Great Sale 2018 ciblent 3 à 4 milliards rupiah. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur. Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir, c'est Rita. Voici le magazine musical qui présente la musique traditionnelle et moderne. Dans le cadre de la commémoration du jour de l'indépendance indonésienne, nous vous présentons les chansons héroïques. Pour ouvrir notre programme musical aujourd'hui, nous vous présentons une chanson intitulée « Bung Hatta » par Iwan Fals. Bonne écoute.
Tuhan, terlalu cepat semua. Panggil satu-satunya yang tersisa, proklamator tercinta. Jujur, lugu dan bijaksana, mengerti apa yang terlintas dalam jiwa. Saat melepas engkau pergi, berjuta kepala tertunduk haru, terlintas nama seorang sahabat yang tak lepas dari namamu. Terbayang doa dari kami yang merindukan orang seperti air mata dari pelosok negeri
Segritok setelah sangsong di One Fast ang titule Bung Hatta. Ang siyangto kia komangse sa karya kadang la musik Indonesia depuy 1965 abing siyangte set sangsong. Utkal sang distinctive di One Fast, set sangsong ete biang interprete kak ele de dia o kapel de Bung Hatta. Bung Hatta ete in figure nasional Indonesia kia ve merite le development de song pay. À sa mort, les Indonésiens étaient tristes parce qu'ils avaient perdu le proclamateur populaire et responsable. Bon, chers auditeurs, voici donc la chanson de Titi Puspa intitulée Pantang Mundur. Bonne écoute.
Lepas
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson de Titi Puspa intitulée Pantang Mundur. La chanson a été écrite par une chanteuse légendaire, Titi Puspa. Elle suscitait l'enthousiasme pour ceux qui l'écoutaient. La chanson raconte l'histoire d'une femme quittée par son mari pour aller se battre pour défendre sa patrie. La femme l'a laissée et a même prié et a dit à son mari de ne jamais abandonner la bataille pour leur patrie. Serviteur, avant de terminer notre programme, écoutons maintenant la chanson intitulée Kebier Kebier, chantée par Gomblo. Cette chanson a été lancée en 1979, a presque toujours été jouée à chaque anniversaire indonésien le 17 août. Il y avait beaucoup de musiciens indonésiens qui ont réarrangé cette chanson. L'un d'entre eux était le groupe Chocolat. Bon, serviteur, écoutons maintenant Kebier Kebier, chantée par Gomblo. Bonne écoute et à demain.
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'était des chansons indonésiennes, ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Au revoir.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9525 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, la voix de l'Indonésie, RRI au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @VOIINDONESIA ou bien Instagram Voice-of-Indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.